Un Picasso pour 180 millions de dollars environ, vous vous rendez compte, 180 millions seulement pour quelque chose qui n'a pas de prix dans le système capitaliste, l'art. Absolument, cette vente record de Picasso qui vient après d'autres ventes record de Picasso nous rappelle qu'au sommet du système de valeurs capitaliste, on trouve désormais l'art. Voilà qui pourrait surprendre dans une société qui, ordinairement, ne se préoccupe pas véritablement des choses de l'esprit. Oui, mais voilà. L'art est cher et permet par conséquent aux super riches de montrer leur pouvoir à grands coups de dépenses ostentatoires. Mais surtout, l'art est désormais devenu l'emblème du capitalisme. Car que demande-t-on aux chefs d'entreprise aujourd'hui ? D'être créatif, imaginatif, d'inventer des solutions inédites, disruptives, selon le mot à la mode, des solutions à la Picasso, Picasso comme la voiture, Picasso comme le peintre, Picasso partout. Le chef d'entreprise hier était gris-souris, cigare et complet trois pièces. Il ressemble aujourd'hui à un artiste façon Steve Jobs. Le capitaliste se croit artiste et c'est la raison pour laquelle il chérit l'art. Apple, première capitalisation mondiale, se pense comme une société artiste, l'iPhone étant l'équivalent dans le domaine des objets des demoiselles d'Avignon, rupture à la fois stylistique et technique. C'est cela le paradoxe, l'artiste bohème marginal est devenu le cœur de notre civilisation, un cœur perçu comme productif et foisonnant. « Je ne cherche pas, je trouve », disait Picasso, et il ajoutait « Lorsque je n'ai pas de bleu, je mets du rouge, bleu ou rouge, peu importe d'ailleurs, le capitalisme vend les deux ».
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Les statistiques ethniques sont-elles utiles et républicaines pour en parler ? Je suis en compagnie de Gwenaëlle Calvez. Bonjour. Gwenaëlle Calvez, vous êtes professeure de droit public à l'université de Cergy-Pontoise. À côté de vous se trouve Patrick Simon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INED, Institut national d'études démographiques et chercheur associé au Centre d'études européennes à Sciences Po. Et puis enfin, Louis-Georges Thin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, et c'est le CRAN qui a lancé le débat sur les statistiques ethniques en France en 2007. Louis-Georges Thin, pourriez-vous tenter de nous définir ce que sont les statistiques ethniques, puisqu'on croit savoir ce que c'est, mais en réalité, évidemment, la question est plus compliquée qu'on ne le croit.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de confusion depuis 2007 sur cette question, et récemment encore, parce que les gens confondent deux concepts qui n'ont pas grand-chose à voir, les statistiques ethniques et les fichiers ethniques. Un fichier ethnique, il y a des noms. Un tel est arabe, noir ou autre chose. Une statistique ethnique, c'est anonyme. C'est un chiffre. On dit tant de noirs en France. Et donc, la loi de 78 porte sur les données personnelles. Donc, quand il y a des personnes, on est effectivement dans l'illégalité, sauf dérogation. Et si c'est impersonnel, c'est tout à fait légal. Et c'est pour ça que nous avons pu, depuis 10 ans, faire près d'une dizaine d'enquêtes de statistiques ethniques, sans jamais être inquiété en quelque façon par la loi, bien entendu.
C'est cela, en fait, le paradoxe. On dit qu'il est interdit de distinguer les individus dans la République. En réalité, la République ne fait que les distinguer selon un certain nombre de critères admis. Par exemple, la distinction entre hommes et femmes est une distinction admise, alors qu'elle pourrait très bien être remise en cause. Après tout, on pourrait se demander en quoi l'État, en dehors de but de connaissance, a besoin de connaître notre sexe, Louis-Georges Thin.
Oui, et en fait, ce sont des indicateurs. C'est cette donnée personnelle ou pas qui est importante. Mais ça serait la même chose sur d'autres éléments. Si je dis, par exemple, dans telle ville, il y a 15% de gens qui ont voté pour le Front National, c'est une statistique politique, il n'y a pas de problème. Si je dis, voilà la liste des personnes qui ont voté pour le Front National, évidemment, c'est un fichier politique. Là, il y a un problème. Donc, en fait, du moment qu'on est dans l'anonymat et quand on fait une statistique, on veut le nombre, on ne veut pas le nom, il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut une méthodologie correcte, mais il n'y a pas de difficulté légale. Il n'y a de difficulté que psychologique pour des gens qui ne veulent pas les faire, et c'est leur droit. Mais en tout cas, on a besoin d'indicateurs pour savoir si aujourd'hui les choses avancent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire concrètement si le racisme avance ou pas, si la lutte contre le racisme recule ou avance. Et il faut ces indicateurs pour raisonner au niveau global.
Patrick Simon, justement, vous êtes démographe, vous travaillez sur les discriminations. Comment travaille-t-on aujourd'hui sur les discriminations en France dès lors que l'on ne sait pas, par exemple, quel est le pourcentage de personnes d'origine étrangère en France, à moins qu'on le sache et qu'on utilise donc là aussi des statistiques.
Évidemment, il y a différents types d'informations dont on dispose. La plupart du temps, on a des informations sur le pays de naissance et la nationalité des personnes. Donc ça, c'est assez accessible et on fait un certain nombre d'études détaillée à partir de ces informations, notamment le recensement l'obtient, des fichiers administratifs également, ont la nationalité assez souvent. La façon de pouvoir les utiliser est réglementée malgré tout. Hein. C'est pas parce que l'information est là qu'on peut l'utiliser dans n'importe quelle condition. Par contre, si on s'intéresse à d'autres dimensions comme l'origine à travers celle des parents, par exemple, ou une question directe sur la couleur de la peau, là on est dans des situations un peu différentes et il y a des contraintes qui sont un peu plus fortes peut-être que ce que dit Louis-Georges Tain. C'est-à-dire que la CNIL considère que, y compris une statistique impersonnelle, mais qui fait état de l'origine ethnique ou raciale, ne peut être collectée sauf cas d'exception. Et ces exceptions sont listées. Donc il faut faire des démarches assez lourdes, il faut obtenir des autorisations, et en particulier dans les institutions dans lesquelles nous faisons de la recherche, par exemple l'INED ou l'INSEE, l'utilisation de cette information est fortement réglementée.
On va continuer à parler de ces statistiques ethniques, de voir où celles-ci sont autorisées, car il y a de nombreux pays où on pratique ces statistiques ethniques. On va voir ce qui pourrait être fait en France ou pas, tout de suite après Madonna, Love Profusion. There are too many questions. There is not one solution. There is no resurrection. There is so much confusion. And the love profusion, you make me feel, you make me know. And the love vibration, you make me feel, you make it shine. There are too many options. There is no consolation.
You make me know, and the love.
Service public sur France Inter. Les statistiques ethniques sont-elles utiles et républicaines? Nous sommes en ligne avec Esther Benbassa. Bonjour Esther Benbassa.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne et vous êtes directrice de recherche également à l'École pratique des hautes études. Esther Benbassa, vous étiez prononcée en faveur des statistiques ethniques. Où en êtes-vous à cet égard et pourquoi, selon vous, sont-elles tout à fait compatibles avec la République? Expliquez-nous.
Et j'ai fait un rapport avec un sénateur UMP, M. Jean-René Lefebvre, en novembre, où nous préconisons les statistiques ethniques. Et pour ne pas créer une polémique, puisque statistique ethnique est une sorte de phrase qui immédiatement fait peur à tout le monde, nous avons choisi de mettre une case dans le recensement tous les 5 ans où on ajouterait le lieu de naissance des parents et la nationalité antérieure. Et nous avons besoin de mesurer la diversité du pays pour prendre des mesures publiques, parce que c'est ce qu'on appelle discrimination positive. Hélas, un mot qui ne correspond pas à la réalité, puisqu'il n'existe pas de discrimination positive, mais c'est le positive action qu'on voudrait installer en France. Il y a bien une loi sur la parité homme-femme. Grâce à cela, nous sommes au Parlement 25% de femmes. On pourrait, pour une période limitée, instaurer également des sortes de modèles de discrimination positive pour donner un coup de pouce à des gens qui n'arrivent pas à percer le plafond de verre. Moi, je suis pour les statistiques ethniques parce que c'est se cacher la face que de ne pas les faire, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait M. Ménard, même si aujourd'hui il demande aux députés d'instaurer les statistiques ethniques. Je vais vous dire, c'est un fichage, c'est quand même, ça nous rappelle une histoire un peu sombre dans le passé, et dans ce que les statistiques ethniques, comme mon collègue l'a dit, c'est sur la base du volontariat, de l'anonymat fait par des scientifiques et sur autorisation de la CNIL et d'autres institutions. D'ailleurs, il existe déjà, Patrick Simon avait été la cheville ouvrière de statistiques ethniques, cette enquête qui s'appelle Trajectoire et Origine.
Donc pour vous
voyez, c'est pas aujourd'hui, enfin, il faut prendre les choses en main. Dans plusieurs pays européens et anglo-saxons, les statistiques ethniques sont faites, il y a eu quelques dérives, mais enfin tous les systèmes produisent des dérives. Aux États-Unis, grâce aux statistiques ethniques, on a pu aider à la création d'une classe moyenne noire avec des enseignants qui étaient noirs, parce qu'il y avait longtemps, il n'y a pas eu d'enseignants noirs dans les universités, dans les grandes entreprises, les grands patrons. Tout cela a servi d'émulation. En France, nous préférons nous taire, fermer les yeux, plutôt que de dire, voilà, il faut mesurer les
différentes minorités. Et donc, on a compris, effectivement, que vous y étiez favorable. Et à côté de moi, Gwenaëlle Calvez, qui est professeure de droit public à l'université de Cergy-Pontoise, va vous répondre, Esther Benbassa. Selon vous, Gwenaëlle Calvez, ces statistiques ethniques telles que les présente Esther Benbassa sont-elles républicaines, sont-elles compatibles avec l'esprit donc de notre République française?
Ça je sais pas, c'est peut-être une question qui me dépasse un peu, mais ce qui m'intéresse dans ce qu'a dit Esther Benbassa, c'est que pour une fois on sort de l'abstraction. Le débat sur les statistiques ethniques, c'est un débat qui se caractérise par un très haut niveau d'abstraction. On ne sait jamais ce qu'on va compter, on ne sait jamais pourquoi faire. Et là, Madame Benbassa a quand même été pour une fois assez concrète, assez précise. Elle nous a dit ce qu'était l'ethnie, comment se définissait l'ethnie. C'est le lieu de naissance des parents et la nationalité antérieure, si j'ai bien compris. Donc c'est une définition de l'ethnie qui est assez minimaliste. Par exemple, les enfants de Monsieur Ménard, nés à Coran, comme chacun sait, seront dans la même case que les enfants de monsieur Mohamed, dont les parents sont, qui est également né à Oran, et qui est musulman d'apparence, comme dirait sans doute monsieur Ménard, mais ils seront dans la même case que ses enfants. Est-ce que ça satisfera vraiment le reste des partisans des statistiques ethniques? J'en doute. Donc la définition déjà que nous propose madame Benbassa de l'ethnie est tout à fait étonnante. C'est sans doute la seule acceptable dans notre pays, parce que on n'a pas de taxinomie, on n'a pas de catégorie ethno-raciale. Jamais personne n'a proposé vraiment de sa taxinomie, 5 catégories, 10 catégories, par exemple. Moi, j'aimerais bien que Louis-Georges, un jour, nous dise, en dehors de noir, blanc, s'il a d'autres idées. Par exemple, est-ce que Rome, ça pourrait être une catégorie? Est-ce que Malgache mériterait d'être une catégorie en soi? Combien il en voudrait? Je trouve que ce serait assez intéressant. Et juste pour terminer quand même, sur le but. Bon ben voilà, là c'est bien, elle nous a dit, on veut faire des statistiques ethniques pour faire des quotas ethno-raciaux. C'est d'ailleurs, elle a confondu à la fin, c'était intéressant, les statistiques ethniques aux États-Unis et l'affirmative action, ce qui a évidemment rien à voir. Et je pense que ça mérite
peut-être
de la clarté.
Peut-être sans les confondre, elle considérait qu'il y avait un lien, et c'est dans cet esprit-là que beaucoup de personnes de gauche se sont prononcées en faveur des statistiques ethniques faire de la discrimination positive ou des choses de ce genre.
Elle
Louis
a dit que c'était grâce
je peux répondre effectivement
qu'il y avait des profs
noirs,
questions
qui sont posées. La dernière enquête de statistiques ethniques que nous ayons faite, c'était il y a 3 mois, juste avant les élections départementales. Nous avons enquêté, nous avons révélé qu'il y avait effectivement 0,5% de personnes issues de la diversité dans les conseils généraux en France. Et donc, nous avons regroupé dans cette catégorie les personnes noires, arabes, asiatiques, etc. Et c'est un chiffre intéressant. Je ne sais pas si vous le pensiez. Par exemple, dans les 50 plus grandes villes de France, le chiffre parmi les adjoints, c'est de 9,5. Donc c'est pas mal du tout. En revanche, quand on va dans les conseils généraux qui sont juste un peu plus haut, c'est 0,5. On voit qu'il y a un plafond de verre qui se trouve en France, dans le monde politique, exactement à ce niveau-là, entre les villes et les conseils généraux. Eh bien, moi-même, avant de faire cette enquête, je ne le savais pas. Ça nous permet de dire aux partis politiques, vous avez avancé au niveau des villes, c'est le premier échelon de la vie politique, vous devez poursuivre et faire des choses semblables, volontaristes. Sur les solutions, on peut discuter, mais en tout cas, au moins on a un diagnostic. Et sans cette enquête, personne ne le savait. Voilà un exemple très concret.
Esther Benbassa, vous vouliez réagir à ce qu'ont dit Gwenaël Calvez et Louis Georges Tain.
Écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec la juriste, madame la juriste. Parce que moi, je ne veux pas définir l'ethnie, c'est pas mon objectif. La case qu'on mettrait permettrait mesurer la diversité de la France. Et les enfants de Monsieur Ménard ne seront pas ensemble avec les enfants de la famille Haïti, disons, par exemple, parce que il y a aussi la nationalité antérieure. Les enfants de Monsieur Ménard sont nés à Oran, mais ne sont pas marocains, ne sont pas algérien de nationalité. Donc, vous voyez, il faut quand même ne pas tout mélanger et je ne veux pas du tout faire des quotas. En Amérique, les statistiques ethniques, il y a des catégories, vous mettez hispanique, caucasien, etc., etc. Donc, il faut quand même ne pas tout confondre parce que on a l'impression que la République prendrait un coup si elle savait que, je ne sais pas, 80% des enfants nés dans des familles de l'étranger ne fréquente pas les grandes écoles. Voilà, par exemple, et d'ailleurs je suis très généreuse parce que c'est plus de 90%.
C'est un pourcentage plus faible. Merci Esther Benbassa de nous avoir répondu sur ce point et de nous avoir expliqué ce que vous aviez fait comme proposition hier avec un autre sénateur UMP. Teresa est au standard. Bonjour Teresa.
Oui, bonjour monsieur.
Nous vous écoutons, Teresa.
Je vous écoute régulièrement. Depuis, je suis d'origine espagnole. Et je vis en France depuis 78 et j'ai ma nationalité depuis 84. Et j'ai la double nationalité. Mm-hmm. Alors, je me sens très française. J'ai un accent qui a du mal à partir parce que je suis arrivée à 26 ans. Mais je me sens très française. Et quand je suis en Espagne, je suis espagnole. Ici, je suis française. Et ça me pose aucun problème. Et voilà, et je voulais participer parce que j'ai des amis qui habitent aux États-Unis. Je n'ai marre des fois d'entendre le modèle des États-Unis. On dirait que les Français sont en adoration avec les États-Unis. Et c'est très, très difficile. J'ai une amie espagnole qui habite là-bas. Elle est classée en hispanique. Ça veut dire quoi, hispanique? Hispanique, ça veut rien dire du tout. Ça veut dire une personne qui parle espagnol. Alors, les Sud-Américains qui parlent espagnol sont hispaniques. Les Brésiliens, ils sont pas hispaniques. Vous voyez? Et dans les hispaniques qui ont classe, il y a des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, des Indiens. Voyez, alors ça veut rien dire, c'est d'une hypocrisie totale. Et ça m'énerve quand je vois ça à la télé, dans les téléfilms, vous voyez. Alors moi, je pense que la France, c'est le pays que j'ai adopté. J'ai pris ma nationalité pas par nécessité, je suis venue par choix. J'avais mon travail en Espagne, j'avais pas de problème de travail, je suis venue par choix. Et ça veut dire que pour moi, la France, c'est le pays de la liberté, parce que j'ai vécu la dernière année du franquisme, et je veux dire que la laïcité, c'est la plus haut. Les Français d'origine ne se rendent pas compte qu'est-ce que c'est la laïcité pour des gens qui viennent des pays qu'on impose la religion, vous voyez. Et ça, c'est très important. Et autre chose très importante, c'est qu'en France, tous les Français, ils sont pareils. Après, on avance, on n'avance pas, on doit faire des efforts aussi. Je veux dire, moi, je suis pas d'origine ethnique autre que vous. Je veux dire, je suis andalouse, mais je suis blonde. Vous voyez, il y en a pas beaucoup, mais il y en a tout de même. Vous voyez, les a priori.
Les andalouses blondes, a priori, il n'y a pas de.
J'ai souffert du racisme, mais j'ai souffert de mon accent par moment. Mais des personnes pas bien, il y en a partout. Comme on dit,
on ne veut pas mettre ça en statistique.
Les cons, il y en a partout, dans les blancs, dans les noirs, dans les asiatiques. Vous voyez? Alors du coup, moi, je suis contre totalement, et il faut se battre contre ça, parce que c'est l'origine de la nationalité. Et à quoi ça sert de la personne qui a dit ça? Elle a pris sa nationalité.
Merci Teresa, on a compris effectivement que vous ne vouliez pas de statistiques ethniques. Patrick et Simon, par rapport à ce que vient de dire Teresa, donc on voit qu'il y a effectivement un attachement à un certain universalisme républicain qui, semble-t-il, serait en quelque sorte troublé par ces catégories, nous dit Teresa.
Oui, Teresa fait une opposition entre la nationalité française qu'elle a acquise et dont elle est fière et elle a le droit, et puis l'origine. Mais bon, il n'y a pas de contradiction particulière. Les pays qui sont multiculturels, on a tous la nationalité du pays, ou la plupart, et par ailleurs, on peut avoir des origines. Et ces origines-là, peut-être que pour Teresa, ça porte pas préjudice, et on peut le souhaiter. Pour d'autres, ça le fait. Et c'est ça la grande différence. Donc l'enjeu auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre et à agir sur des situations de discrimination, de différenciation qui sont quotidiennes. Donc en ce moment, ce qu'on a, c'est qu'on a une société dans laquelle la question de la religion est omniprésente. On passe son temps à parler des musulmans à tort et à travers, et souvent en très mal. On a des sorties sur le communautarisme supposé des maghrébins, sur la position des noirs dans la société, et tout ça se fait dans le dialogue, et par ailleurs, on a strictement, ou en tout cas de façon trop limitée, des informations statistiques qui permettent de détruire les stéréotypes et les préjugés qui sont construits dans ces débats.
Justement, à ce sujet, Louis Georgetin, seriez-vous favorable, par exemple, à ce que l'on construise des indicateurs statistiques pour mesurer la confession des Français, qu'on suive cela et qu'on exploite ensuite cela, évidemment, dans un but de politique publique? Est-ce que, par exemple, ça, c'est une mesure qui vous paraîtrait favorable?
Je pense qu'il faut se donner des moyens et savoir ce qu'on veut faire exactement. Mais c'est vrai qu'il faut être concret. Le débat est tellement abstrait, là je suis d'accord avec vous Gwenaëlle, que je ne comprenne pas. Le CSA, par exemple, à partir de 2009, a commencé à publier un baromètre de la diversité. On se rappelle en 2005, Harry Roselma, quand on le voyait à la télé sur TF1, eh bien on sursautait. Mon Dieu, un noir à la télévision. Aujourd'hui, depuis qu'il y a eu ce baromètre, le CSA a pu démontrer aux chaînes qu'il y avait un problème, une sous-représentation de la diversité. Ils regardent les personnes blanches, perçues comme blanches ou non blanches, et ils disent aux chaînes, voilà, vos résultats sont insuffisants, vous devez progresser. On ne vous donne pas d'ailleurs un quota précis, mais vous devez progresser. Aujourd'hui, elles ont progressé. Effectivement, du point de vue quantitatif, il y a une représentation satisfaisante. Après, il faudrait voir le qualitatif, mais ça, c'est autre chose. Et je trouve qu'on a beaucoup progressé grâce grâce à cet outil statistique du CSA. Et finalement, ça a permis de résoudre une partie du problème. Et aujourd'hui, on voit sur toutes les chaînes des journalistes de la diversité, de toutes les couleurs. Ce ne sont pas des stars, on s'en fiche, c'est très bien, ça s'est banalisé. Et je trouve que c'est un exemple très concret, très précis, qui montre à quoi peuvent servir nos statistiques.
Gwenaël Calvez.
Merci. Oui, ça, moi, ça m'intéresse que vous acceptiez d'être concret, Louis-Georges. Alors, puisqu'on avait Teresa qui nous a
appelé. J'ai déjà donné trois exemples concrets.
Alors, justement, non, j'aimerais qu'on revienne sur votre exemple des petits pointages que vous avez faits. Comme Monsieur Ménard, je voudrais redire que ça, c'est légal pour vous, ça l'est pas pour lui. Vous avez des listes qui sont publiques, les listes des membres des conseils généraux. Et à partir de ça, vous avez fait un pointage à votre sauce, en pointant ce qui était de la diversité, ce qui était, de la monotonie. Ce que je voudrais savoir, c'est Madame Teresa, la dame qui nous a appelé tout à l'heure, est-ce que vous l'auriez, si elle était élu, rangé dans la diversité. Je voudrais savoir également si, par exemple, des Français d'origine arménienne, vous les avez mis dans la diversité, ou des Français d'origine d'Afrique du Nord. Comment vous avez fait la différence entre cette diversité et le reste ? C'est ça que, depuis le début, j'essaie de comprendre.
Je trouve que la même méthodologie que le CSA.
Mais oui, c'est visuel.
Les personnes perçues comme blanches et non blanches.
Mais c'est visuel.
Parce que, par exemple, oui, mais quand, par exemple, les policiers font du faciès, c'est visuel.
Mais vous avez
et c'est
vu
pour
tous
ça que
les
l'enquête
membres du conseil
qui a été
général
faite
français
par Patrick Simon se fonde aussi sur l'apparence, parce que la discrimination que pratiquent les policiers, eh bien, c'est sur l'apparence. C'est ce qu'on appelle le délit de faciès. Moi, je pense que cet outil du CSA, il est très bon. Je pense qu'il a eu des effets très positifs et je pense que ça peut être généralisé dans d'autres domaines.
Statistiques, c'est sur des grands nombres. Comment voulez-vous voir les gens sur des grands nombres? Je n'avais même pas compris que c'était visuel, votre méthodologie, mais
pas
c'est
seulement,
absurde.
Mais pas seulement, mais sur les conseils généraux, c'est
sur
un grand nombre.
Sur les minorités visibles, en
ça
tout cas,
des milliers de
il y a
personnes,
eu...
Hein.
Ceci de fait, on va continuer à évoquer les autres questions posées par les statistiques ethniques, avec notamment un rappel qui est toujours fait à Vichy. On va écouter le reportage de Thomas Chauvinot à ce sujet tout de suite après Rachida. Voilà.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Voilà. Voilà que ça recommence. Partout sur la ville de France. Voilà que ça recommence. Partout ils avancent. La leçon n'a pas suffi. Dire qu'à la mémoire on a choisi l'oubli. Partout les discours sont les mêmes. Étranger, tu es la cause de nos problèmes. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, ce n'était qu'un répit. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, ce n'était qu'un répit. Voilà que ça recommence. Partout et sur la douce France. Voilà que ça recommence. Partout ils avancent. La leçon n'a pas suffi. Faut dire qu'à la mémoire on a choisi l'oubli. Dehors les étrangers. C'est le remède des hommes civilisés. Prenons garde, ils prospèrent. Pendant que l'on regarde ailleurs. Prenons garde, ils prospèrent. Pendant que l'on regarde ailleurs. Voilà que ça recommence. Partout et sur la douce France. Voilà que ça recommence. Voilà que ça recommence. Partout et sur la douce France. Voilà que ça recommence. Partout ils avancent.
Voilà. The lesson was not learned. The memories they choose to forget. Everywhere I hear voices say. Fact, it was only a pause. Voila.
starting again. They are coming. Voilà, voilà.
Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout sur la douce France. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, ils avancent. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout sur la douce France. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, ils avancent. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout sur la douce France.
Service public sur France Inter, les statistiques ethniques sont-elles utiles et républicaines? On en parle en compagnie de Gwenaëlle Calvez, qui est professeur de droit public, de Louis Georgetin, qui est président du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France, et de Patrick Simon, qui est directeur de recherche à l'INED. On a beaucoup parlé de compter les musulmans, car en réalité, ce que voulait dire Robert Ménard, le maire de Béziers, c'était qu'il souhaitait dénombrer le nombre de personnes de confession musulmane dans sa ville. On parle peu des juifs. Les juifs font-ils partie de la diversité, Patrick Simon? Faudrait-il là aussi dénombrer les personnes, alors comment le dire, de religion juive ou alors qui se considèrent comme juives?
Alors ça, c'est une question qui revient assez régulièrement. Les organisations juives, le consistoire, le CRIF, font parfois des enquêtes où ils s'intéressent à la composition de la population juive, et donc ils le font avec des méthodes, avec des noms, en demandant aux personnes de s'autodéclarer à partir de fichiers plus ou moins nominatifs. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que les juifs sont confrontés à des discriminations aujourd'hui? Dans l'enquête trajectoire et origine qu'on a conduite, on a demandé la religion. Des personnes se sont dites juives. Et à elles, quand on leur demande « est-ce que vous avez été discriminées ?», souvent, elles disent non. Par contre, si on leur demande si elles ont été victimes de racisme et donc d'antisémitisme dans leur cas, elles disent oui. C'est-à-dire qu'il y a bien là une distinction entre ce qui relève du racisme et de l'antisémitisme d'une part, c'est-à-dire des attitudes hostiles, des vexations, des comportements agressifs, et d'autre part, ce qui est un barrage dans l'accès à l'emploi, au logement, et ainsi de suite. Donc, on a bien là une situation différente des juifs dans la société française par rapport aux personnes qu'on qualifie de noirs ou d'arabes, qui, elles, sont confrontées simultanément à des agressions et à des insultes, mais aussi à des barrages dans l'accès à des fonctions ou à des traitements, comme le rappelait Louis Georgetin, de discrimination au faciès.
Je pense que ce qui est intéressant aussi avec les statistiques ethniques, c'est qu'elles permettent de passer de la lutte contre les discriminations individuelles à la lutte contre les discriminations collectives. Un exemple très concret là aussi, parce que j'ai quand même donné beaucoup d'exemples, chez Renault, des ouvriers estimaient que les Noirs et les Arabes étaient victimes de discrimination dans l'évolution salariale. C'est-à-dire qu'ils étaient confrontés à un plafond de verre qui était d'ailleurs très proche du plancher. Alors que les autres pouvaient évoluer à notes égales, les Noirs et les Arabes n'évoluaient pas. Et donc, ils sont allés voir le juge qui leur a dit « Écoutez, moi je veux bien vous croire, mais je n'ai pas d'éléments. Si vous venez en appel avec des panels, avec des chiffres et des statistiques, je pourrais statuer. » Et donc, en effet, ils sont retournés en appel, ils sont venus nous voir, on est allés ensemble, et en appel, ils ont gagné, parce qu'ils ont pu démontrer, chiffres à l'appui, avec des statistiques, que les évolutions salariales étaient différenciées selon la couleur. Donc, non seulement elles sont utiles, mais c'est le juge lui-même qui demandait des statistiques ethniques.
Alors, lorsqu'a éclaté cette polémique autour des statistiques ethniques et du fichage supposé des musulmans dans la ville de Béziers, on a beaucoup reparlé de vichisme, car en réalité, évidemment, cette question renvoie ici en France à la question des lois anti-juives de Vichy. C'est la raison pour laquelle notre reporter Thomas Chauvineau est allé à la rencontre d'une historienne, Claire Zalk. Elle est spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle a beaucoup travaillé sur la question du fichage. Et notre reporter l'a rencontrée au mémorial de la Shoah, devant le mur des noms où sont gravés les 76 000 juifs déportés sous Vichy.
Il y a quelque chose de très solennel dans ce lieu avec tous ces noms qui correspondent aussi du coup à des fiches puisque tous ces gens-là avaient été fichés.
Tous, peut-être pas tous, il y en a sans doute qui ont été arrêtés sans être fichés. Donc il y a eu plusieurs vagues de recensement des juifs. Alors c'est très compliqué de savoir comment ça a été fait concrètement. On sait que ça a été d'abord un appel à la déclaration. Il faudrait vraiment prendre un exemple très précis. Voilà, l'exemple que je connais le mieux, c'est Lens. Donc il y a une ordonnance allemande du 18 novembre 1940 qui appelle tous les gens à venir se déclarer comme juifs. Or, on a des listes qui sont établis dès le 18 novembre 1940. Donc évidemment, les gens n'ont pas eu le temps de venir se déclarer. Donc, on sait que le sous-préfet demande à toutes les mairies de leur donner des listes de juifs. Il y a 142 mairies à l'époque. Il y en a 16 qui répondent avec des listes
autour
de
noms. Autour de Lens, hein, donc.
Oui, toujours autour de Lens. Là, je vous parle d'un exemple local. Donc c'est des mairies qui vont répondre en disant moi, j'ai tant de juifs et puis voilà la liste de mes juifs.
Mais comment les mairies savent ?
Ben justement, mais ils ne savent pas, parce que qu'est-ce qui vous dit à vous que ces gens sont juifs ? Alors, j'ai un très bon exemple, c'est Daniel Galunef. Donc, il est recensé. Et Galunef dit, mais moi, je suis pas juif. Donc, il écrit, non, mais moi, je suis pas juif. En fait, c'est très compliqué de savoir qui est juif et qui n'est pas juif. Si vous vous en référez à une définition théologique, le rabbin va vous dire, est juif celui dont la mère est juive ? Et bien que déjà, le nom, ça marche pas, hein, parce que le nom, a priori, c'est le nom du père. Bon. S'il y a un philosophe, quel Sartre, va dire, est juif celui qu'on dit comme juif ? Bien, l'historien, il peut juste vous dire, celui qui a été persécuté comme juif, voilà comment il a été dit juif. Est-ce que ça veut dire qu'il est juif ? Je ne suis pas sûre.
Ces fiches, une fois qu'elles étaient faites, donc avec cette manière compliquée, à quoi elles servaient ?
Alors, elles ont servi à beaucoup de choses. La première chose, d'abord, ça n'a pas été des fiches. Les premières choses, c'est des recensements, c'est des listes. Hein. C'est tout de suite fait pour exclure alors, des professions, puis enlever des biens, et puis discriminer hein, au fur et à mesure. Donc ça a tout de suite été fait pour ça. Après, les fiches, à proprement parler, comme vous le savez sans doute, il y a plusieurs fichiers. C'est une histoire extrêmement compliquée, en fait. Donc il y a aussi des fiches qui ont été faites à la préfecture de police. Celles qui sont dans le sous-sol ici, c'est des fiches essentiellement faites par la préfecture de police, qui ont été faites pour d'abord identifier les personnes, justement, à ces fins de discrimination. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le droit, par exemple, de vendre quelques vêtements sur un étal de marché ? Non, parce que quand vous êtes juif, vous n'avez plus le droit d'être commerçant ambulant. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, au fur et à mesure que la persécution augmente, ces fiches vont être, et ces recensements vont être faits pour, par exemple, savoir qui doit ou pas porter l'étoile jaune, et puis après, qui va être ou pas déporté. C'est évidemment ces fiches qui ont été la base des listes de déportation.
Et est-ce que l'historienne que vous êtes a du coup un point de vue sur ce qui s'est passé à Béziers ?
Alors, je ne connais pas du tout les faits, donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je lutte quotidiennement dans ma pratique d'historienne et auprès de mes étudiants. Je me bats vraiment contre toute tentative d'essayer de regarder des listes et de dire « toi, tu es ceci, toi, tu n'es pas cela ». Regardez Charles, hein, regardez-le.
Voilà, alors là,
Selma Charles.
Vous montrez Selma Charles.
Est-ce que Émile Carcassonne, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça sonne quoi ? C'est cette question-là,
ce
vraiment.
Ce sont deux noms que vous avez pris là au hasard sur le mur des noms qu'on a devant nous. Là.
Ouais. Chiche Portiche. Vous l'avez vu, le Chiche Portiche qui est juste là ? Non, ça fait en effet froid dans le dos que l'on puisse faire ça encore aujourd'hui.
Le reportage de Thomas Chauvineau avec l'historienne Claire Zalk. Votre réaction, Patrick et Simon, à ce que l'on vient d'entendre, avec là aussi une comparaison facile évidemment avec ce qui s'est produit sous Pétain et, il faut peut-être le rappeler, un refus des statisticiens français à l'époque de se livrer à ce genre de choses, beaucoup dont Alfred Souvy ont refusé de s'y plier.
Oui, alors là, l'exemple, je pense que Claire Zalk l'a bien rappelé, ce que font les nazis et ce que fait le pouvoir de Pétain quand il y a des lois raciales contre les juifs, c'est de demander aux personnes de s'enregistrer. Ils font des fichiers administratifs, c'est-à-dire qu'ils prennent, c'est un dénombrement, ils prennent les personnes nommément avec leur adresse, parce que l'objectif, évidemment, c'est de les contraindre à faire un certain nombre de choses, d'abord de les persécuter et de les exclure d'un certain nombre de professions, puis de leur faire des taxes particulières, puis enfin de les assigner à résidence avant de les déporter. Donc là, on est bien dans un mécanisme qui repose sur des fiches individuelles. Quand les nazis,
pas des statistiques.
Quand les nazis sont arrivés dans tous les pays qu'ils ont occupés, ce qu'ils ont demandé, c'est de faire ça, que ce soit en Hollande, en Pologne ou ailleurs, et parce que leur objectif, c'est de pouvoir trouver des personnes pour pouvoir ensuite les déporter. Ils se foutent complètement des recensements. C'est-à-dire que le recensement, l'intérêt démographique qu'il peut y avoir à décrire les personnes n'intéresse pas les nazis et n'intéresse certainement pas le gouvernement de Pétain à ce moment-là.
Oui, c'est pour ça qu'il faut comprendre que Pétain ne fait pas de statistiques, il fait du fichage. C'est ce que je disais, c'est très différent. La statistique est anonyme, et donc pour les nazis, ça n'a aucun intérêt. Il faut des noms pour déporter des personnes individuellement. C'est pour ça que je dis que le fichage est a priori un outil raciste, et la statistique est au contraire un outil antiraciste.
On écoute Mélodie Gardot, « Same to you ».
you're gonna get for all you got when you treat the one you love like they are not. Who you gonna call while you're on your own? You build the bed you burn right within your home. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them who knows me. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you can be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them through on me. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. Ooh, Lord, they're gonna do the same to you. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them through your mind. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. The same to you, they're gonna do the same to you, yeah. The same to you, the same to you, the same to you, they're gonna do the same.
Service public sur France Inter, les statistiques ethniques sont-elles utiles et républicaines? Nous avons Marie qui nous appelle d'Orléans. Bonjour Marie, nous vous écoutons.
Bonjour Guillaume. Oui, alors moi je suis pour les statistiques. J'insiste, statistiques et non fichage. Moi je suis une fille de deuxième génération, la deuxième génération d'immigrés. J'ai grandi à la cité des Courtilières à Pantin, donc dans un milieu très 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 coloré. Et aujourd'hui, j'habite un tout petit village à 35 km à l'est d'Orléans, où il y a trois personnes de minorité visible, je crois qu'on dit comme ça. Hein, une est chercheuse au CNRS, l'autre directrice de je ne sais quoi, enfin bref. Eh bien, le FN fait des scores imbattables dans notre, dans notre village. Et lorsque j'en discute avec mes voisins, leur vote est essentiellement basé sur des fantasmes. C'est-à-dire, quand c'est normal, quand Madame Marine Le Pen nous lance des chiffres à tout va, on n'a pas la possibilité de la contrecarrer avec des données scientifiques. Et je pense que de poser les choses, alors pas n'importe comment, c'est à nos politiques d'être les gardiens d'une éthique, mais de poser des chiffres, de dire des vérités, ça nous permettrait enfin de sortir de ce fantasme d'une France qui est en train de perdre son identité et envahie par des hordes des migrants venus de toutes parts.
Donc eh ben, on va poser la question à Patrick Simon, démographe.
Moi, je pense que c'est un très bon argument. Je pense qu'effectivement, le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est qu'on passe son temps à affirmer des tonnes de choses sur la société, sur la place des minorités, et ce qu'elles font, et à aucun moment on arrive à contrer ce discours-là en présentant un certain nombre de faits qui permettent au moins de lever tous ces fantasmes qui sont évoqués. La contradiction qu'il faut porter dans les tensions qui existent aujourd'hui dans la société française, elle est diverse. Il faut montrer que cette diversité, elle contribue à la formation et à la cohésion de la société, et non pas l'inverse. Or, pour le faire, il faut reposer sur un certain nombre de données, et ces données, moi je m'excuse, il faut qu'on les construise avec des catégories qui représentent présente cette diversité.
Gwenaëlle Calvez, vous qui êtes professeur de droit public.
Merci de me donner la parole. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est ce que montre bien cette intervention. C'est une sorte de croyance en une efficace propre des chiffres. Il y aurait des chiffres qui vont tout d'un coup dissiper alors le vote Front National, tel ou tel fantasme sur la réalité de l'immigration. Et si c'était le contraire ? Et si on avait des statistiques, on n'en est pas maître, une fois qu'on les met en circulation, et s'il y avait des statistiques qui donnaient lieu à des interprétations complètement inverses, les chiffres sur la population pénitentiaire peut tout à fait donner lieu à des interprétations. On l'a vu avec quand Monsieur Zemmour nous a donné des chiffres qui sortaient d'on ne sait où sur le nombre de Noirs et d'Arabes en prison, et ben ça peut tout à fait donner lieu à des interprétations essentialistes du type bah ouais c'est normal, ils sont délinquants par nature. Bon, donc on n'est pas maître du tout de l'interprétation qui sera donnée de ce genre de chiffres. Et d'autre part, pour ce qui concerne des fichiers qui pourraient être construits sur le même type de critères, parce qu'à un moment donné, il faut quand même bien passer à l'action. Hein. Louis-Georges, moi, je veux bien qu'il faille distinguer les statistiques des fichiers,
mais
par exemple, dans le cadre,
des
plans de diversité dans les entreprises, à un moment donné, il faut compter, il faut savoir qui est qui pour savoir si on a le bon nombre de bonnes personnes au bon endroit. Hein. Donc, on peut pas se contenter de statistiques au niveau national. Donc, pour les fichiers, c'est la même chose, et c'est pour ça que moi, je me réjouis quand même assez de cette affaire Ménard, enfin, si on peut s'en réjouir, c'est qu'elle permet quand même de montrer que les statistiques ou ethniques ou les fichiers ethniques spontanément n'ont pas vocation à lutter contre la discrimination. D'une part, vous n'avez jamais montré en quoi ils permettraient de lutter contre la discrimination. D'autre part, elles peuvent évidemment tomber entre de mauvaises mains et faire l'objet d'utilisation qui serait certainement pas au profit de la lutte contre les discriminations.
Alors, dans la mesure où il s'agit justement de statistiques anonymes, il n'y a pas d'usage mauvais comme ceux auxquels vous pensez. En revanche, pour lutter contre les discriminations collectives, on a besoin de mesurer les choses. Dans les grandes entreprises, par exemple, j'ai cité Renault tout à l'heure, c'est quand même très clair.
C'est l'article 8 de la loi, c'est bon, c'est bon,
nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est celle de la politique de l'autruche. Au fond, c'est comme si on disait à un médecin, vous n'avez pas le droit d'avoir un stéthoscope, un thermomètre, des analyses de sang, mais vous devez savoir si le malade va mieux ou pas, si le cancer progresse ou pas, etc. Et c'est pas une question américaine, j'ai envie de le dire. Il faut rappeler que quand même, les instances européennes ou internationales ne cessent de pousser la France à aller dans ce sens, parce que ce n'est pas en se privant d'éléments qu'on arrive à identifier. Alors effectivement, une statistique ethnique n'est pas une politique, mais ça permet de savoir si on avance, si on recule, et c'est ça qui est déterminant, notamment pour la lutte contre les discriminations systémiques. Et ça, c'est essentiel.
Votre réponse, Gwenaëlle
Calvez. Oui, parce que je suis quand même qu'on présente ainsi l'état du droit de manière déformée et mensongère ou fautive en tout cas, ça ne va pas. C'est-à-dire que la loi interdit de manière absolue pour les personnes publiques, de manière relative pour les personnes privées, la collecte et l'enregistrement de ce type de données. Mais naturellement, il y a toutes sortes d'exceptions. Notamment, elles sont énumérées à l'article 8, notamment l'usage en justice. Et vous citez à très juste titre le cas de la discrimination à Renault, du temps d'ailleurs où M. Schweitzer était président de la Halde, mais peu importe, cette discrimination a été reconnue et sanctionnée. Mais parce qu'elles sont possibles, donc pourquoi dites-vous qu'elles ne le sont pas ?
Mais j'ai pas dit. Au contraire, je dis qu'elles sont possibles. Je dis qu'elles sont possibles puisque nous les faisons.
Il dit qu'elles sont possibles.
Nous les faisons.
Et qu'elles sont nécessaires.
C'est ce que je dis. Je dis qu'elles sont possibles et nécessaires. Vous n'avez rien compris à ce que je dis.
Non, je crois que.
Je dis qu'elles sont possibles et nécessaires. Nous en faisons.
Corinne, une auditrice, nous dit. Dans quelle catégorie ethnique serais-je classée, étant donné que je suis métisse franco-camerounaise? Franco-camerounaise métisse, donc on voit, et ça n'est pas la seule, Corinne, on voit qu'il y a un problème de classement. Beaucoup d'auditeurs nous disent, voilà, moi je ne me sens pas homogène dans mon identité, j'appartiens à plusieurs cultures, j'ai plusieurs couleurs de peau. Que répondre à ces auditeurs, Patrick Simon?
Il faut répondre que nous sommes complexes, et fort heureusement, la façon dont on procède quand on fait des enregistrements sur les origines ou sur les catégories ethno-raciales, c'est qu'on vous pose la question. Donc la réponse à la question de votre auditrice, c'est comment elle-même se classerait. Obama, par exemple, a répondu dans le recensement américain, il avait le choix entre blanc, noir, Asian, American Indians. Il a répondu, je suis noir. Je suis noir, noir. Alors que tout le monde sait bien, notoriété publique, que sa mère est blanche.
Il a
et pourquoi
aussi, hein.
Non, oui, il y a.
Mixed race depuis 2000.
Non, on peut mettre plusieurs réponses et il a décidé de mettre que noir. C'est ça l'importance. Et pourquoi il a décidé de mettre que noir? Parce qu'il a dit mon histoire, ma situation dans la société américaine, l'histoire de la société américaine me commande de me dire noir parce que c'est ça qui se produit dans la société où je vis. Donc votre auditrice, je ne sais pas, en conscience, elle répondra par rapport à son expérience, à sa situation. Et c'est ça, en fait, comment fonctionnent ces catégorisations. C'est-à-dire que c'est de l'auto-identification. vérification. Vous répondez, je réponds et les autres répondront ce qu'ils voudront. Et ça sera les seuls à le savoir d'ailleurs.
Louis Georges Tain, par rapport à ça.
Oui, cette complexité qu'évoque Patrick Simon à juste titre, elle n'est d'ailleurs pas spécifique à la question des statistiques ethniques. Lorsque, par exemple, on fait des statistiques sur l'âge, parce qu'on veut faire des politiques pour les jeunes, eh bien, jeunes, bah, c'est quel âge? 20 ans, 25, etc. Sur le handicap, c'est pareil. Entre la personne qui voit bien et la personne qui est aveugle, il y a toute une série de situations possibles. Donc, c'est pas particulier. Toutes les statistiques peuvent être plus ou moins fines. On peut discuter des modalités. Ce qu'on ne peut pas discuter, à mon avis, c'est le principe, parce que batailler pour l'ignorance me paraît une chose étrange.
Gwenaëlle Calvez, votre conclusion à ce sujet.
Batailler pour l'ignorance, ça me semble une formule inutilement polémique et vraiment erronée.
Pour quelle raison ?
Eh bien parce que la loi permet, et d'ailleurs c'est bizarre parce que c'est ce que vous avez commencé par dire au début d'émission, la loi permet tout à fait toute une série d'études, qu'elles soient scientifiques du type de celles que mène Patrick, ou qu'elles soient plus, disons, militantes comme celles que vous menez au cran. Oui, donc pourquoi dire une chose et son contraire ?
Mais pas du tout, j'ai toujours dit qu'elles sont possibles, mais beaucoup de gens en effet affirment qu'elles sont interdites, ce qui est faux, elles sont nécessaires, nous en faisons, nous disons que
alors
d'autres devront faire davantage,
alors
parce que beaucoup d'institutions, par exemple dans l'école, le ministère de l'Éducation nationale ne veut pas travailler sur certaines problématiques. Il y a d'autres institutions qui pourraient travailler, ne veulent pas le faire. Moi, je ne peux pas les obliger. Mais beaucoup de gens, finalement, ne veulent pas savoir la vérité.
Une conclusion très rapide, Patrick.
Oui, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces statistiques qui sont possibles soient établies de façon plus raisonnée et de façon un peu plus systématisée, sans que ça devienne à chaque fois un débat pour savoir pourquoi on compte. On compte parce qu'on veut montrer la diversité et on veut analyser les situations d'inégalité dans la société.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin pour échanger sur les statistiques ethniques. Bonjour Nagui.
Déjà ça, c'en est une de statistiques ethniques. Bonjour Nagui. Ok, c'est pas grave, je vais s'accroter. On a aujourd'hui Mireille Darc, puisque nous allons parler et fêter les 120 ans du cinéma avec la Gaumont, et puis nous chercherons à joindre le président du Festival de Cannes à la veille de ce festival, Pierre Lescure, qui doit être en train d'essayer son smoking pour demain soir.
Et effectivement, Mireille Darc, c'est une autre statistique ethnique, puisqu'on a eu tout à l'heure une auditrice qui était andalouse et blonde, peut-être que Mireille Darc est également.
Ah oui, mais je parlais pas
andalouse.
De ça, je parlais de Nagui et arabe, mais c'est pas grave, Guillaume, je vous envoie un mail.
Juste après, envoyez-moi votre mail, voilà. Nagui, et je vous écoute.
Vous savez mon passeport, ça marche.